Rédempteur, tu es notre glorieux Mère, tu es notre berger aussi, et nous sommes devant toi ce matin tous ensemble pour écouter ta voix et obéir à tout ce que tu veux encore nous dire parce que tu veux nous parler dans ton amour. Tu veux nous aider dans nos familles, dans notre vie de couple, puisque c'est le sujet, Seigneur. Aide-nous à bien comprendre ce que tu veux nous dire et assumer la tâche que tu nous demandes en tant que chef du foyer. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Enseigne-nous maintenant encore et que tout te glorifie. Merci pour ta fidélité et merci pour ta présence au milieu de nous. Amen. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons donc aborder un sujet extrêmement pratique qui nous concerne tous. Le sujet donc de la famille et tout spécialement des responsabilités du mari dans le couple. En général, et c'est là un sujet extrêmement important. Je pense que vous êtes d'accord avec cela. Il y a tant de souffrances dans les familles, dans les vies de couple, pas seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église, parmi les chrétiens. Que de couples sont en faillite, même si apparemment tout va très bien derrière. Les beaux visages, bien souvent, il y a des pleurs, il y a de grandes souffrances. C'est pourquoi le Seigneur veut nous aider à réaliser quelque chose de nouveau dans nos responsabilités. Même si tout va bien dans votre vie de couple, le Seigneur veut que ça aille toujours mieux. Le désir du Seigneur est d'améliorer nos relations avec notre épouse, n'est-ce pas vrai? Alors, pour cela, nous allons lire dans l'Épître aux Éphésiens, c'est le passage classique, Éphésiens chapitre 5. On peut déjà lire à partir du verset 15, peut-être, parce que le passage concernant la famille commence au verset 22, Éphésiens 5, 22, mais il est bon de relire un peu le contexte, et au verset 15, voici ce qu'il est dit. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Remarquez bien, ceci est dit avant les exhortations que Paul va faire au couple. Soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous voyez, ce verset est important, nous allons y revenir. Et maintenant, au verset 22, femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Cela, Dorothée va en parler à côté. Et pour nous, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Ces passages sont extrêmement importants et malheureusement, on les entend bien souvent que le jour d'un mariage. Et après le mariage, il n'y a plus rien du tout. Et on oublie, en tout cas, nos responsabilités. Et cet oubli a des conséquences extrêmement tragiques, bien souvent. Donc il est bon de lire et de relire, vous le remarquez ici, le Seigneur s'adresse à l'épouse et s'adresse aussi au mari, chacun personnellement. Chacun doit entendre le message que Dieu veut lui donner, personnellement. Le Seigneur veut vous parler aussi, personnellement, et à moi aussi. Car nous avons tous besoin de réaliser la grande responsabilité que nous avons, vous l'avez remarqué, Paul dit, je parle d'un mystère. C'est quelque chose de tellement glorieux qu'il dit que ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Voyez-vous, l'amour que le mari doit avoir pour sa femme, ses responsabilités par rapport à elle, ont une dimension très grande. Ça doit se faire dans l'optique de Jésus par rapport à son Église. Et dans ce sens-là, comment assumer vos responsabilités en tant que mari, mes responsabilités, c'est en considérant aussi ce que Christ a été par rapport à son Père. Ce qu'il a été par rapport à son Père, nous devons l'être par rapport à Jésus. Il y a là un parallèle pour nous inspirer à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Bien sûr, nous n'arrivons jamais à cette perfection, mais nous devons tendre à devenir des hommes qui glorifient le Seigneur dans leur vie de couple et dans leur famille. Et je voudrais parler sur la première responsabilité. Naturellement, il y a beaucoup de choses à dire, mais la première responsabilité du mari, ou ce que chaque mari doit savoir, si on peut mettre un titre, en priorité, ce que chaque mari doit savoir en priorité. Alors nous allons trouver cela au verset 23. Il est dit, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ, attention, il est le chef comme Christ. Pas comme vous le pensez, comme je le pense, comme le monde pense en tant que chef. Et malheureusement, beaucoup de, même de maris chrétiens, résonnent encore avec cette mentalité du monde. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Alors voyez-vous, la première responsabilité ici, le mari est le chef de la femme. Donc, nous allons méditer sur cette responsabilité en tant que chef. C'est extrêmement important. Et d'abord, nous allons voir ce que ce mot chef ne veut pas dire. Malheureusement, beaucoup ont compris que être un chef, c'est être le commandant à la maison, le patron incontesté. Tu m'écoutes, hein, peut-être? Pas de discussion possible. La Bible dit que je suis chef. N'as-tu pas lu? En plus, on fait la leçon à sa petite femme. N'as-tu pas lu que je suis le chef? Elle l'a sûrement lu, mais c'est toi qui as mal compris ce que ça veut dire être chef. Peut-être que nous avons besoin de revenir là-dessus. Parce que si nous avons uniquement dans notre tête cette conception du chef, du patron, du commandant, qui commande d'une manière incontestée, alors là, nous faisons fausse route. Nous faisons fausse route. Alors, qu'est-ce qu'un vrai chef selon la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'un vrai chef? J'ai noté plusieurs points ici. Un chef, le vrai chef, premièrement, est d'abord soumis à des supérieurs. Voyez-vous, ça change tout de suite. Comme on l'a vu tout à l'heure, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voyez-vous, avant que Paul commence à parler de la soumission de la femme à son mari, il faut lire les contextes un petit peu. Bien souvent, nous ne lisons pas les contextes. Mais le contexte dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Autrement dit, un vrai chef d'abord, c'est pas seulement celui qui donne des ordres, mais c'est quelqu'un qui est soumis à un supérieur, à des supérieurs. Vous êtes d'accord avec moi? Autrement dit, un chef, selon la parole, c'est quelqu'un qui est soumis au Seigneur. Et de cette pensée-là, de cette réalité-là, va découler beaucoup de conséquences, soit heureuses, soit fâcheuses, si on ne comprend pas la chose. Si vous voulez que votre épouse vous soit soumise, selon les termes bibliques, il faut d'abord que vous, moi, je sois soumis au Seigneur. C'est d'accord avec moi? Et là, il y a là une pensée extrêmement importante. Un chef, c'est d'abord qui est soumis au Seigneur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, premièrement, le mari a fait de Jésus le Sauveur et le Seigneur de sa propre vie. Amen. Voilà, ça c'est le point de départ. Si on ne commence pas comme ça, tout ce que nous allons dire, eh bien, ne portera pas de fruits. Nous ferons tant d'erreurs. Il faut d'abord, avant d'être un bon mari, que vous soyez d'abord un bon chrétien. Écoutez-moi bien, ça c'est une vérité extrêmement importante. La plupart des problèmes dans les couples, bien souvent, ne résultent pas de problèmes conjugaux. Dans le sens de conjugué. C'est bien souvent des problèmes spirituels. On se dit chrétien, mais on ne vit pas comme un chrétien. On a des réactions qui ne sont pas des réactions de chrétiens, et à cause de cela, on fait des dégâts énormes. Avant d'être un bon mari, il faut être d'abord un bon chrétien. Et si tu es un bon chrétien, tu seras un bon mari. Tu es d'accord avec moi? Mais si tu n'es pas un bon chrétien, tu ne seras pas un bon mari. Combien de fois nous avons discuté avec des centaines, et vous aussi, avec beaucoup de couples qui ne vont pas. Quand vous grattez un petit peu pour voir où est le problème, vous voyez, là on parle des hommes, concernant le mari, vous voyez qu'il a eu une attitude qui n'a rien à voir. Il se dit chrétien pourtant. Et il a une attitude à l'égard de sa femme qui n'est pas du tout une attitude chrétienne. Et l'épouse aussi, quand vous grattez un petit peu, vous voyez qu'elle a des réactions ou un comportement qui n'est pas aussi le comportement d'une vraie chrétienne. Et à cause de cela, il y a des frictions. Donc voyez-vous, souvent, nous cherchons midi à 14h, comme on dit, on cherche des réponses à des problèmes qu'on s'imagine, alors qu'en réalité, tout est simple, tout est clair. La plupart des problèmes dans les vies de couple, c'est un problème spirituel. C'est parce que le mari ne vit pas sa foi chrétienne. Il n'est pas vraiment soumis au Seigneur. Il fait encore ce qu'il veut. Où Jésus n'est pas vraiment le Sauveur et le Seigneur de sa vie. Il ne lui a pas encore remis les rênes de sa vie. Alors vous pensez bien que, en étant comme cela, est-ce que le Seigneur peut aider un tel couple? On peut pleurer, on peut pleurnicher et dire « Seigneur, aide-moi, Seigneur, fais ceci ». Je me dis « Mais je veux bien, mais je veux bien t'aider, mon enfant, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu me remettes les rênes de ta vie, une fois pour toutes. » L'avez-vous fait? Une fois pour toutes. Jésus-Christ doit être le Sauveur et le Seigneur. C'est ça. Dans le mot « Seigneur », il y a cette pensée de soumission totale à notre Sauveur. Avez-vous franchi ce pas-là? C'est un pas, oui, c'est le premier. Mais si ce premier pas-là n'est pas pensé sérieusement, eh bien, tout le reste va pécloter, tout va clocher après. Parce que tout va dépendre de cela. Moi, je vois avec ma femme, vous-même, vous pouvez le dire aussi, chaque fois que ça peut-être grincer un petit peu, parce que ça grince de temps en temps avec ma petite femme. Mais pourquoi? Je réfléchis un petit peu. Pourquoi? C'est parce que j'ai réagi charnellement. Ce jour-là, j'étais loin de manifester les fruits de l'esprit. Et voilà pourquoi ça faisait des étincelles. Je le savais. Je me disais, Sam, c'est pas étonnant qu'il y a une petite tension. Tu n'as pas réagi comme un vrai chrétien. Tu n'as pas réagi d'une manière spirituelle. Parce que tu crois le chef, tu te permets de dire n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Quand on est soumis au Seigneur, on ne fait pas n'importe quoi avec le Seigneur, vous êtes d'accord avec moi? Ça ne marche pas. On peut lui dire n'importe quoi, mais lui, c'est pas pour cela qu'il va, faire vos petits caprices. Donc, premier point, dites-moi bien, j'insiste là-dessus, c'est capital. Le mari, un vrai chef, même un chef, au travail et autres, un vrai chef est soumis à d'autres chefs, à des supérieurs. Et vous aussi, et moi, en tant que chef de ma femme, je dois être soumis au Seigneur. Comme sauveur, bien sûr, si Jésus n'est pas mon sauveur, alors naturellement, ça risque pas d'aller. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et vous pouvez dépenser des milliers de dollars auprès de spécialistes conjugaux, vous n'arriverez à rien du tout. Ils vous ont soulagé d'une chose, c'est de votre argent. Ça, ils vous auront soulagé. Mais les autres problèmes, ils ne vous auront pas soulagé. Loin de là. Donc ça commence. Jésus, mon sauveur. Donc je réalise qui je suis. J'étais un rebelle, pécheur, perdu. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Je réalise combien Dieu m'a aimé. Voyez-vous, quand on réalise toutes ces choses, après, ce comportement que nous avons par rapport à Dieu, nous allons le reproduire par rapport à notre femme. Si je réalise combien Dieu m'a aimé, alors je vais comprendre aussi combien Dieu aime aussi ma femme. Si j'ai été rebelle, eh bien, il faut que je sois aussi patiente, parce que moi aussi, si elle est un peu rebelle de temps en temps, je dois me rappeler aussi ma propre rébellion. Oui. Quand on se rappelle tout ça, on est beaucoup plus calme, tolérant. Voyez-vous, la majorité des problèmes dans les couples, c'est un problème spirituel. Et d'ailleurs, Paul, c'est comme ça qu'il règle les problèmes, vous êtes d'accord avec moi? Mais alors, mais souvent, nous passons par-dessus, nous n'approfondissons pas ces choses. Et c'est pourquoi, si nous n'approfondissons pas les choses, tout est en surface dans notre vie et dans notre vie de couple. Tout est en surface. Il n'y a rien en profondeur. Et s'il n'y a rien en profondeur, un jour la maison s'écroulera. Comme Jésus l'a dit, vous êtes d'accord avec moi, quand le vent souffle, sur un coup, la tempête, l'inondation, parce qu'il n'y a pas les fondements. Parce que Jésus n'est pas le Seigneur, parce qu'il n'est pas le Sauveur, parce qu'il n'a pas tout entre ses mains. Ça s'écroulera. Si tu veux tout prendre entre tes mains, un jour, tu verras que ce n'est pas suffisant. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas suffisant. Il en faut un troisième. Et c'est Jésus. Lui, c'est le fidèle. Si tu l'acceptes vraiment comme le Seigneur de ta vie, malgré tes erreurs, il viendra à ton aide. C'est le bon berger. Quand on l'a accepté vraiment comme le Seigneur de sa vie, il ne nous abandonne pas comme ça, le Seigneur. Amen. C'est ce qui est merveilleux avec lui. Il ne nous abandonne pas. Il sait que tu lui as donné toute ta vie. Et ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. Mais si tu ne lui as pas tout donné, c'est là le malheur. Parce que Dieu ne force personne. Si tu ne remets pas ces rênes-là, il ne forcera pas. T'as beau prier, t'as beau jeûner. Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur dit, mais donne-moi les rênes de ta vie d'abord. Un premier point important. Si nous voulons être de bons maris, il nous faut d'abord être de bons chrétiens. Tout simplement. Vous connaissez le passage, Galates 5, des fruits de l'esprit. Regardez ça. Simplement ça. Si un mari manifestait ces cinq fruits, Galates 5, combien, 22, 23. Et si on manifestait ces fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous vous rendez compte? Si on manifestait ces fruits dans notre vie de couple, par rapport à notre épouse, puisqu'on parle de couple, vous croyez qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de problèmes? Au contraire, beaucoup de problèmes seraient résolus. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout est là! Tout est là! Un chef, c'est quelqu'un qui a fait de Jésus, qui se soumet à Jésus, et qui a fait de Jésus le Sauveur et le Seigneur de sa vie. Amen. Ça, c'est le premier point. Et si nous avons pris le Seigneur au sérieux dans notre vie, alors, il a un plan. À partir du moment où on lui remet les rênes, il a un plan.
Et le Seigneur, un jour...
Un temple! 40 ans pour le construire! Des pierres, partout, une construction magistrale! Et Jésus vient dire, voyez-vous là, ce que vous voyez là? Il n'y aura bientôt plus pierre sur
rien.
Et effectivement, l'histoire, vous le savez certainement, l'histoire, en l'an 70, après ces déclarations, l'empereur Titus, l'empereur romain Titus, est venu et a détruit le temple et tout Jérusalem. Ça a été terminé. Jésus le savait. Pourquoi? Il est Dieu. Voyez-vous? Ça, là, c'est une preuve de ça.
Divinité.
Je vous le dis, en vérité. On ne peut pas tromper le Seigneur. Mais les disciples étaient trompés. Mais Seigneur, tu vois, c'est extraordinaire. Formidable. Vous voyez ce que l'homme peut faire. Ils sont encore éblouis par la construction de l'homme, par l'imagination de l'homme, par la technologie, on dirait aujourd'hui, de l'homme.
Bah
extraordinaire.
Oui.
Mais Jésus dit, tout ce que vous voyez là va périr dans le feu. Concernant tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout va périr par le feu.
C'est écrit.
Qu'est-ce que vous dites là? Ah oui. Là, ce n'est plus les hommes qui parlent, c'est la parole de Dieu. Et ça se réalisera. Et ça s'est réalisé en l'an 70. Ils ont vu que Jésus n'a pas menti. Et dans toutes ses paroles, tout ce qu'il a dit, tout s'est accompli. Et tout ce qui n'a pas été accompli, qui doit s'accomplir plus tard, s'accomplira. Il n'y a aucune raison que tout ce qu'il a prophétisé et qui n'est pas accompli ne s'accomplisse pas. Il n'y a aucune raison. Puisque tout ce qu'il a dit le concernant,
déjà dit,
c'est réalisé.
Voilà.
Ah. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne ment pas. Et alors, il s'assit sur la montagne, verset 3. Des oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc ils s'imaginent qu'il y a quelque chose de sérieux qui va se passer. Jésus leur répondit. Et là, il donne le premier signe de la fin des temps. Le premier signe. Le premier signe, regardez bien. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Bon, après le verset 6, c'est autre chose. Arrêtons-nous là, quelques instants. Premier signe, c'est un signe spirituel. Le signe de la séduction spirituelle. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et vous savez ce que être séduit veut dire? Quelqu'un qui est séduit, c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui ne sait pas qu'il est séduit. Ça, c'est terrible. C'est ne pas savoir qu'on ne sait pas qu'on est séduit.
Ne pas se réaliser qu'on est séduit.
C'est ça, le mot séduction, c'est terrible. Beaucoup de gens disent, mais moi je ne suis pas... comment tu le sais? Comment tu le sais? Quelqu'un qui dit ça, il se compare à ses propres idées ou avec d'autres. Mais c'est des paroles humaines. Rien ne tiendra. Pierre sur pierre, tout sera s'écroulera. Toute ta construction, tu t'es construit peut-être un temple. On s'est construit peut-être un beau temple dans sa tête. Un avenir extraordinaire.
Des projets.
Tout s'écroulera. Tout ce qui n'est pas bâti sur le rocher des siècles s'écroulera, mes amis. Ça, il nous faut bien le réaliser. Ça, plus tôt nous le faisons, plus tôt nous serons sauvés et nous éviterons la confusion, car elle vient. Que les gens y croient ou qu'ils n'y croient pas, ne vous en faites pas, ça se réalisera. Ce que Jésus a dit s'accomplira. Quand il a dit cela, ils ont dit, mais comment ça va se passer? 70 ans hein, 10 ans, au bout de 10 ans, toujours rien. 20 ans, toujours rien. 30 ans, toujours rien, le temple est là. 40 ans, toujours rien. Ils ont dû penser, c'est un menteur, ce Jésus. Et vous suivez ce Jésus, c'est un menteur. 50 ans, toujours rien. Moi, c'est un menteur. Et vous continuez de croire en lui. 60 ans, rien du tout. 70 ans arrivent. L'armée romaine commence à montrer, à se montrer et à venir avec une puissance extraordinaire. Et toutes les paroles de Jésus s'accomplissent. Si Jésus n'accomplit pas ses paroles immédiatement, elles s'accompliront toutes, inévitablement,
pour longtemps. Tard.
En leur temps. Ayons confiance. C'est la meilleure sécurité pour le monde, pour notre vie personnelle et pour notre futur. Mes amis, il n'y a pas d'autre. Sinon, ce sera le désespoir. Et les pleurs et les regrets éternels. Alors, prenez garde que personne ne vous séduise, s'il vous plaît. Car plusieurs viendront sous mon nom, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Écoutez-moi bien maintenant. C'est la séduction spirituelle. N'est-ce pas la confusion totale dans le monde aujourd'hui? Sous mon nom, il y en a qui prennent le nom de Christ.
Ah oui.
Les églises officielles qui disent que voilà, on est représente Christ. M'avez-vous remarqué? Tout ce qu'ils disent n'est plus en accord avec la parole de Jésus. Il n'y en a qu'une religion même chrétienne. Et qui fondent leur foi sur les traditions de leur église, mais pas sur la parole de Dieu. Vous voyez la confusion? Ah oui, mais qu'est-ce que tu as? Moi j'ai ma religion. Mais elle est quoi, chrétienne? Ah oui, oui, oui. Alors, sur quoi tu crois? Ah oui, moi, la tradition. Moi, une fois, quand à celui qui voulait nous vendre une fois une voiture, qui s'est à Chambéry, à Chandor, là, et on lui a parlé du Seigneur au vendeur. C'était notre Mazda, là. Et puis, je lui ai parlé un peu du Seigneur. Je lui ai dit, alors, où en êtes-vous, tout ça? Ah, dis-moi, moi, j'ai mis ma... Je connais un prêtre, là, il est gentil, tout ça. J'ai tout remis ça entre ses mains. C'est votre avenir, tout ça. Vous avez mis ça entre ses mains. Alors, voyez-vous, la foi, une foi aveugle, c'est la foi du charbonnier. J'ai remis, mais ton âme, c'est toi qui vas rendre compte un jour devant Dieu. Tu ne peux pas laisser ces choses comme ça
aux
à l'aventure.
Hommes. Et puis aux hommes.
Tu ne peux pas.
Les hommes.
C'est et ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce qu'ici, il est dit car c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Il y a bien sûr, on a parlé de l'hindouisme, le bouddhisme, toutes ces religions sont naturellement dans l'erreur puisqu'elles rejettent le Christ. Hein. Mais là, la séduction, c'est qu'ils viennent sous mon nom. Ils se disent chrétiens. Là, je lisais des commentaires dans des émissions de télévision aux États-Unis. Il y en a une qui prêche le nouvel âge. À la télévision, elle touche des milliers de personnes, si ce n'est des millions, qu'est-ce que je dis milliers, à la télé, tu touches des millions. Le nouvel âge, qui ne croit pas que Jésus est Dieu, qui ne croit pas que la Bible est la parole de Dieu. Elle dit qu'elle est chrétienne. Regardez. Elle dit qu'elle est chrétienne. Comment ça? Quelque chose, ça ne passe pas. Comment tu dis que tu es chrétien? Et Jésus, sa parole, sa divinité, c'est rien pour toi. Mais tu n'es pas chrétienne. C'est impossible. Mais non, cette personne croit, elle n'est pas la seule. Des multitudes sont comme ça. Pensent être chrétiens et qu'ils ne le sont pas.
Et le Seigneur, un jour...
Voyez-vous, c'est ça la séduction. On pense qu'on sait, qu'on connaît, qu'on est chrétien même. Mais alors qu'on n'est pas du tout. Et beaucoup seront séduits. Et vous savez que la séduction spirituelle, c'est le plus grand esclavage qui existe dans notre société. Quelqu'un qui est séduit spirituellement, c'est le plus grand esclavage. Parce que vous ne pouvez pas en sortir. Prenons l'exemple des témoins de Jéhovah, par exemple. Allez les sortir là-dedans. Hein? Allez. Vous leur dites, voilà ce qu'ils veulent. Jamais. Ils ont ça dans leur tête. Leur Jésus, ils ont un Jésus. Mais ce n'est pas...
Le Jésus de la Bible.
Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Pour eux, ce Jésus-là n'est pas Dieu. C'est pourquoi il s'appelle témoin de Jéhovah. C'est Jéhovah seul qui est Dieu, mais pas Jésus. C'est un Dieu avec un D minuscule. Et Jésus lui-même a dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Croyez pas que je suis Dieu, le Fils de Dieu. Vous mourrez dans vos péchés. Attention. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas se débarrasser de Jésus comme ça. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas. Personne ne peut se débarrasser de Jésus. Il est Dieu. On peut le mettre de côté maintenant, mais là-haut, ça c'est fini.
Ah bah oui, c'est ça.
Aujourd'hui, il est notre sauveur. Mais si on ne l'a pas accepté comme son sauveur, il sera comme notre juge là-haut. C'est terminé. Et puis, il n'y a pas de discussion. La Bible dit quand on se présentera devant lui, toute bouche sera
fermée.
Il y a beaucoup de gens qui peuvent. Ils ont préparé, ils ont déjà tout un discours. Moi, je vais dire ceci, cela. Et puis, avec Dieu, et puis t'as pas fait ça dans ma vie. C'est à cause de toi, c'est à cause de ceci, à cause de l'un, à cause de l'autre. Quand ils vont commencer à voir le grand trône blanc, la présence de la sainteté divine, la pureté de Dieu. Toute bouche sera fermée. Ils verront leur état naturel, égoïste, de pécheur. Toute bouche sera fermée. Ils ne pourront même pas ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Et pourtant, aujourd'hui, ils pensent, ils sont séduits. Sous mon nom, n'est-ce pas tragique? Dire qu'on est chrétien et qu'on ne l'est pas. Dire qu'on est chrétien et qu'on pense être sauvé. Moi aussi, mes parents étaient chrétiens, évangéliques, tout ça. Mais jusqu'à 20 ans, moi aussi, j'ai dû... j'étais un gentil, Sam, avec mes copains. Je faisais pas trop de mauvaises choses. Voilà, Sam, et puis voilà. Et, mais oui, si on m'a demandé qu'est-ce que tu es, bah, moi je suis un chrétien, c'est bon. Ah oui, mais un chrétien, mais mon cœur était sale. Je savais qu'intérieurement, il y a, par mes pensées, beaucoup de choses m'ont souillé. Et alors je voyais bien que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Seulement avoir le nom, c'était un vernis qui était sur moi. Et beaucoup de ces chrétiens qui sont là, au milieu de nous, et il y a un vernis, mais il n'y a rien. On a une religion, mais moi aussi j'avais la religion de mes parents, mais j'avais pas changé. Pas transformé, pas être purifié. Mais il fallait que j'ai une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Mmh. C'était au Faux-en-Roissard, près de Grenoble, là-bas, dans un camp de jeunes avec les églises arméniennes, juste à 20 ans avant de partir à l'armée. C'est là que, le dernier jour de la, du camp, le dernier jour du camp, je m'en souviens. Le pasteur, le lendemain, on devait tous partir, c'était fini. Et le pasteur a prêché un message. Et à la fin, il a dit, qui veut se convertir au Seigneur ? Personne n'a levé la main. C'était tard le soir, il commence à faire nuit. Moi j'étais dans un coin là-bas. Personne n'a bougé. Alors quand le pasteur voyant que personne ne lève la main, bon, ben, il a dit on va finir par la prière. Et puis chacun va aller dans sa, sous la tente et puis se préparer pour le départ du bilan. Il a fait la prière et les gens, les jeunes commençaient à s'en aller. On était tous sur des bancs, sous une tente. Et moi, je voulais me lever. C'était comme s'il y avait de la colle sous moi. Impossible.
Ça fait drôle, hein, ça.
Et d'un seul coup,
Quelle grâce.
J'ai eu une pensée. Ben, c'est maintenant que tu dois mettre ta vie en règle. Il faut que tu mettes ta vie en règle avec Dieu. J'ai eu cette pensée. J'étais en train de réfléchir là-dessus. C'est fait, vous savez, ça a été assez vite. C'est quelques pensées. Hein. Et oui, j'ai dit, oui, ça, oui, il faut maintenant aller terminer. Il faut que je ne peux pas continuer comme ça. Et au moment où, dans mon cœur, alors que les autres s'en allaient gentiment, oui, c'était tout dans ma tête. Au moment où j'allais dire au Seigneur, Jésus, pardonne mes péchés et viens, je veux devenir un vrai chrétien. Viens donc. Au moment où j'allais dire ça, une autre voix vient dans ma tête. Au moment où j'allais dire oui, il y en a un qui est venu. Une pensée, je ne sais pas d'où elle est venue. C'était sûrement le diable. Attention. Si tu donnes ton cœur au Seigneur, tu vas être malheureux. Être malheureux.
Mmh, ce menteur-là.
Et puis alors, la confusion est entrée en moi. Qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Je voulais, et puis l'autre vient. Je savais que c'était le diable. Hein. J'ai réfléchi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il y a eu un combat terrible. Puis d'un seul coup, j'ai une autre pensée.
Encore.
Une autre pensée. Dans le fond de mon cœur, je me suis adressé au diable qui voulait m'influencer. Je lui ai dit, écoute, tu me dis que je vais être malheureux, mais je ne vais pas être malheureux, je le suis déjà. Sans Christ, je suis déjà malheureux.
Bien sûr, c'est ce qu'on est sans lui.
Je suis malheureux.
Oh oui, oh oui.
Seigneur, pardonne-moi et viens dans mon cœur. La voix a disparu complètement, terminée. Et quand j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je me repens. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai senti comme un poids énorme, de 100, 200 kilos, un fardeau qui m'a quitté. C'était nous, jamais j'avais vu ça. Ah, j'ai dit, mais Dieu a entendu ma prière. Extraordinaire. Mais c'est merveilleux. Ah, j'étais content. Alors j'ai vu que Dieu m'aimait. Et que... J'ai vu que Dieu m'aimait. C'est la première chose qui m'aimait. Et j'ai compris en quelques secondes une autre chose. C'est que mon péché, je ne m'en rendais pas compte qu'il était sur moi, était comme un fardeau qui m'écrasait. Mais c'est ça.
Oh, exactement.
Le péché est comme un fardeau qui nous écrase. Mm-hmm. Et ça nous écrase. Mm-hmm. Et c'est comme Cain, quand il a péché, il a dit, ce fardeau est trop lourd sur moi, quand il a tué Abel. La Bible dit que ce péché, ce fardeau est trop lourd sur moi, vous voyez. Dès le début, le péché comme un fardeau, comme un sentiment de culpabilité qui est là, qui nous écrase et qui ne peut nous libérer totalement.
Prenez des décisions ce soir en rentrant à la maison, prenez-les. Je veux être plus avec ma femme. Et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux, n'est-ce pas vrai? Il n'y a pas d'excuse dans ce domaine-là. Ah oui, mais j'ai... Pas d'excuse. T'as bien du temps pour ce qui te plaît. T'as bien du temps pour faire ce qui te plaît. T'as resté 1 heure, 2 heures devant la télé comme ça.
Voilà un point extrêmement important qui peut complètement renouveler les relations que nous avons avec nous. Septième qualité d'un chef. Il doit être patient. Colossiens 3:19, il dit, Marie, ne vous aigrissez pas contre elle. La patience. La patience. Que de choses auraient changé, n'auraient pas été les mêmes si vous aviez été patient. La patience. Là encore, il faut que on veille à ne pas tout casser tout de suite parce que les choses ne vont pas comme on le voudrait. Dieu permet ces difficultés pour que la patience fasse son œuvre en chacun d'entre nous. Si certains couples avaient été patients, ils seraient encore aujourd'hui ensemble. S'ils avaient été patients, ils seraient encore aujourd'hui ensemble. Soyez patients. Et Dieu fera son œuvre, un chef et patient. Que le nom du Seigneur soit béni. Et un autre point, le chef doit honorer sa femme. 1 Pierre 3:7. Il est dit, 1 Pierre 3:7, vous de même, Marie, vivez avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Mais le texte grec, c'est pas plus faible, plus fragile. Elle n'est pas plus faible, elle est plus fragile. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Honorez-les. Et là, il y a un point important. Que beaucoup de maris n'ont pas bien compris. Combien de maris traitent leur épouse comme des lavettes? Rien du tout. Aucun respect, aucun honneur. Et en cela, ça ne peut que qu'aggraver la situation. Honore ta femme. Honore-la. Et tu verras qu'elle t'honorera. La Bible dit que Dieu honore celui qui l'honore. Honore ta femme si tu veux qu'elle t'honore aussi. Change cette attitude de tout le temps vouloir l'humilier. Combien de maris déshonorent leur femme devant les autres aussi, par exemple. Devant les autres. Un malin plaisir à déshonorer. Et à dire des choses, même en public, c'est incroyable. Des choses qui déshonorent la femme. Vous croyez que votre épouse est contente quand elle entend ça? Elle ne sait pas où se mettre. Elle ne sait plus où se mettre.
Comment ça, c'est ce mari qui m'aime, ce qui soi-disant m'aime, qui me traite comme ça?
Et là, ce sont des blessures profondes. Profondes, profondes, profondes. Et ce n'est pas étonnant que beaucoup d'épouses sont dans la déprime, des dépressions, et on doit prendre un cachet, et on doit prendre ceci et cela. Comment est-ce que tu traites ta femme? Il y en a qui sont spécialistes à traiter les autres femmes comme des reines. Mais quand il s'agit de sa propre femme, quelque chose qui ne vaut rien du tout. S'il y a quelqu'un que tu dois honorer par-dessus tout, c'est bien ton épouse. Après le Seigneur, n'est-ce pas vrai? C'est ton épouse. N'oublie pas cela. Sinon, c'est la déprime, c'est le découragement. C'est aussi beaucoup, c'est la maladie même. Les épouses sont très fragiles, comme on vient de le dire. Et cette fragilité les conduit à l'insomnie, ils n'arrivent plus à dormir. Quand ça va trop loin, c'est des envies de suicide. Ça peut aller très loin, vous êtes d'accord avec moi? Ça peut aller très loin. Honore ta femme. Surtout en public, honore-la. Ne donne pas l'impression qu'elle ne vaut rien du tout. Montre que tu aimes ta femme. Publiquement. Et elle t'honorera aussi. Et un autre point, un chef doit savoir pardonner ou demander pardon. Il y a des maris qui n'ont jamais demandé une fois pardon à leur femme. Vous dites, mais ça existe, ça? Malheureusement, ça existe. Alors, vous croyez que ça va dans un tel couple? C'est invivable. C'est invivable. Le chef, quelqu'un de mûr, il s'est demandé pardon quand il a fait une erreur. Et il s'est aussi pardonné quand l'épouse demande pardon. Et quand le pardon a été accordé, on ne revient plus sur ce problème. Combien, même après avoir pardonné, quand une autre situation arrive un peu difficile, on ramène le problème. On dit, oui, mais tu vois, voilà, l'autre jour encore, comme ça. On n'en sort plus. Un vrai chef, pardon. C'est fini. Et c'est là que ta femme verra que tu l'aimes vraiment, lorsque tu tournes la page. Et non pas tout en ramener le même problème pendant des mois et des années. Quelle tragédie. Un chef sait demander pardon. Et sait pardonner aussi. Un chef, on en est où? 10? 10. C'est bien. Un chef sait déléguer des responsabilités. D'accord? Un chef, quand il est vrai chef, il vous a formé et ensuite il vous dit maintenant tu fais le travail. Ce que je peux faire, tu peux le faire aussi. Je t'ai maintenant assez formé pour que tu fasses le travail. Un vrai chef délègue des responsabilités. Et j'ai noté ici Genèse 2,18, quand il est dit que l'Éternel, en donnant une épouse à Adam, il a dit je lui ferai une aide. Une aide. Et cette aide est dans le sens de quelqu'un à qui on confie des responsabilités et qui les assume. C'est merveilleux quand, dans un couple, le mari donne des responsabilités aussi à sa femme. Donc je sais que dans tel domaine, ma femme a plus de qualités que moi. Elle a des dons que moi je n'ai pas. Ce serait terrible de ma part de dire oh, parce qu'elle a des dons dans tel ou tel domaine. Moi, comme je ne les ai pas, non, la jalousie est là. Et on ne donne rien, on ne fait rien. On étouffe les talents qui sont là. Alors que Dieu a justement donné ça pour s'épanouir elle-même et pour t'aider, toi.
ta femme a des qualités dans tel ou tel domaine, donne-lui des responsabilités. Elle a été créée comme une aide. Elle a besoin qu'on lui fasse sentir qu'elle est là pour nous aider, pour t'aider. Oui, j'ai besoin de ton aide. Dis-le souvent à ta femme.
Il dit, Marie, oui, je n'ai pas besoin de toi de toute façon, moi je me débrouille tout seul.
Il n'est pas besoin de toi, regardez-moi ça. Ça va tout à fait à l'encontre de ce que Dieu a préparé pour le couple.
Au lieu de lui dire, je n'ai pas besoin de toi, il dit au contraire, j'ai besoin de ton aide.
J'ai besoin de tes prières, j'ai besoin de ta connaissance, de ta sagesse, j'ai besoin de tout cela. C'est cela un vrai chef. N'est-ce pas merveilleux quand c'est comme ça? Je vous assure, le mariage devient ce que vraiment Dieu a préparé. C'est comme le ciel sur la terre. C'est ce que Dieu a voulu. L'intention divine est que dans le mariage, ce soit le ciel sur la terre. Et malheureusement, dans beaucoup de foyers, c'est au contraire, c'est l'enfer sur la terre. Et on en est là, c'est l'enfer. Et même si on est ensemble, on se supporte. Et on ne fait rien du tout, on ne divorce pas à cause des enfants et à cause de la famille, à cause de je ne sais quoi. Mais c'est l'enfer. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Le Seigneur veut que ce soit le ciel sur la terre. On arrive, je vais maintenant vous donner, on a encore une demi-heure, et nous allons voir la deuxième responsabilité du mari. D'abord, il est un chef, on a vu ces 10 responsabilités, si vous voulez, ces 10 qualités du chef. Et maintenant, un peu plus loin, il est dit au verset 7, vous de même mari, vivez un... Ah non, ça je suis là. C'est dans Éphésiens, voilà, c'est là. Éphésiens, verset 25 cette fois. Verset 23, c'était le mari et le chef de la femme. Et ensuite, verset 25, Marie, aimez chacun votre femme. Et vous allez le remarquer, dans les quelques versets qui suivent, à 4 reprises, l'apôtre Paul dit au mari d'aimer sa femme. On va le lire, si vous voulez. Marie, aimez vos femmes, verset 25, n'est-ce pas? Bon, il s'est livré lui-même pour moi, bon, afin de la purifier, pour faire connaître, voilà, un peu plus loin. De même, au verset 28, de même les maris doivent aimer leur femme. Soulignez encore ça, une deuxième fois, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, au verset 28 encore, verset 28, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous vous rendez compte? On se dit, mais alors, il radote un petit peu, Paul. Non, non, non. Et après, jamais personne en effet n'haït sa propre chair. Et alors, c'est pourquoi l'homme, de ce mystère, verset 32, du reste, que chacun de vous aime sa femme. Encore une fois, 4 fois, l'apôtre dit qu'il fallait aimer sa femme. Pourquoi? Parce que c'est là un des besoins essentiels de votre épouse. Elle a besoin d'être aimée. À 4 reprises, cela veut dire que c'est ce besoin qui est en elle. Et nous allons voir comment exprimer cet amour à sa femme. On a une demi-heure, nous allons voir ça maintenant. Et comment exprimer? Mais c'est là quelque chose que le mari doit savoir, que sa femme a besoin d'être aimée. D'être aimée, c'est important. Et c'est là, bien souvent, que le mari aussi ne fait pas ce qu'il faut, et ne réalise pas que c'est aussi important que ça. Pour la femme, il est dit à un moment donné que les jeunes femmes aiment leur mari, et puis il n'est plus question que la femme aime son mari, parce que instinctivement, la femme a ça en elle. D'ailleurs, le premier besoin de la femme par rapport à son mari, il est dit ici, et que la femme reste. Ça, c'est ce que la femme doit comprendre par rapport à son mari, qu'elle doit le respecter. Ça, c'est quelque chose que l'épouse doit comprendre si elle veut avoir un mari heureux et expérimenter cette harmonie dans le couple. Là aussi, malheureusement, les femmes n'ont pas, certaines ne font pas ce qu'il faut faire.
Ça, ça les regarde en bas. Non, on parle des hommes. Et comment, j'ai noté ici, comment nous devons exprimer cet amour? Comment exprimer son amour à sa femme? Premièrement, le mari doit exprimer son amour par des paroles. Le moyen le plus simple, mais le plus souvent, le plus négligé parmi nous, de dire son amour. Certains maris ont beaucoup de peine à le dire, parce qu'ils pensent que cela n'est pas nécessaire. Le mari, c'est un chef, il connaît son métier, il doit savoir quels sont les besoins de sa femme. Et les maris plaignent complètement. La preuve, quand ils parlent de leur femme, ils disent « c'est un mystère, je ne la comprends pas ». Combien de maris disent ça ? Je ne la comprends pas. Souvent, c'est vrai. Il y a des réactions un peu qui nous surprennent. Je la comprends pas. Alors là, c'est quelque chose de grave qui est là. Et il faut absolument qu'il y ait un remède. Comment savoir ? Eh bien, le premier point, c'est celui-ci. Tu dois savoir que ta femme a besoin que tu lui dises que tu l'aimes. Déjà, simplement ça. Simplement ça. Il y a des maris qui ne disent jamais à leur femme qu'ils l'aiment. Mais j'ai pas l'habitude. Eh ben, tu prends l'habitude. Ah, mais moi, chez nous, ça se fait pas. Eh ben, ça se fera chez toi. Faut commencer. Avez-vous remarqué combien de fois le Seigneur Jésus nous dit qu'il nous aime? Quand on lit les évangiles, n'est-ce pas vrai? Combien de fois on voit cette parole que Jésus manifeste son amour à notre égard? Et regardez ici encore, avec Paul qui nous dit « Marie, aimez vos femmes, aimez votre femme comme vous-même, aimez-la comme votre propre chair. » Parce que c'est le problème numéro un, j'allais dire, dans beaucoup de maris. Ils pensent que c'est pas nécessaire. Détrompez-vous. Si vous ne le faites pas souvent, rattrapez-vous. Tout à l'heure, est-ce ou ce soir, ou demain. Rattrapez-vous. Vous allez voir qu'elle va tomber des nues un petit peu. Mais elle ne va pas vous faire des reproches. Vous verrez qu'au contraire, c'est quelque chose qu'elle apprécie au plus profond d'elle-même. Parce que comme elle vous aime, elle a besoin, elle, d'entendre. Ah oui, mais elle le sait. Nous, on ne le sait pas. Elle le sait. Pour comment elle le sait? Ah mais je l'ai dit le jour du mariage. Ah bon? Et depuis 30 ans, ou 20 ans, il n'y a plus rien. Non, mais non. Ah ben, ça, c'est la catastrophe. Et depuis ce temps-là, tu n'as plus rien dit. Ah non, c'est pas nécessaire. Et comment ça va avec ta femme? Oh, elle ronce pas tout le temps. Ça va pas. Ah, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Voilà pourquoi. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tendreur. Il faut le dire. Les hommes se trompent la plupart. Des femmes soupirent après cette assurance verbale de l'amour de l'or. Comme cela que ça commence. Il y a beaucoup de maris qui ne font pas. C'est une tragédie. Ah, mais elle le sait. Non! Il doit le dire. Jésus nous a exprimé son amour, n'est-ce pas vrai? Et nous aussi, toi aussi, tu dois l'exprimer. Non, mais dans ma famille, c'était ça. Ben, tu changes maintenant. Dans ta famille, ça sera différent. Change. Commence. Deuxièmement, comment exprimer votre amour? Vous pouvez exprimer votre amour en pourvoyant à ses différents besoins. J'ai noté plusieurs références, 1 Timothée 5:8, 1 Jean 3:17, Éphésiens 5:28 encore là. Éphésiens 5:28. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, il y a toujours cette pensée de pouvoir à ses différents besoins. Et là, différents besoins qui sont d'ordre physique, émotionnel, intellectuel, social, de détente, sexuel, spirituel. Vous devez être concerné par ces différents besoins. C'est ça, aimer sa femme.
Elle a des besoins. Il n'y a pas seulement que les vôtres. Vous êtes adulte, je suis adulte. Maintenant, je ne suis pas marié pour être heureux, mais pour rendre l'autre, mon conjoint, heureux. Elle a des besoins. Êtes-vous attentif à ses besoins quand elle dit quelque chose? Souvent, on fait la sourde oreille. Oh non, pas maintenant. Oh non, j'ai pas le temps. Oh non. Et petit à petit, elle s'aigrit intérieurement. Elle a le sentiment, finalement, que vous ne l'aimez pas beaucoup. Parce que c'est comme cela que c'est interprété pour elle. C'est comme ça. Ah oui, mais nous, ah non, on voit pas les choses comme ça. Ah oui, mais elle, elle voit les choses comme ça. Donc il est important de pourvoir à ses différents besoins intellectuels, émotionnel, spirituel. Ça, c'est votre responsabilité. Ça veut dire que vous l'aimez. Commencez un peu à ouvrir les yeux et à voir quels sont ses besoins profonds. Cesse d'être dans ta tour d'ivoire où elle doit, elle, tourner autour de toi. Toi, maintenant, commence un peu à ouvrir l'œil. T'as dit que ceci, cela, tel besoin, tel autre besoin, cesse de faire la sourde oreille. Il a besoin de repos, par exemple, de détente. Eh bien, sors un petit peu. C'est tout simple. Sors un petit moment. Sors. Fais quelque chose. Troisième moyen, vous pouvez exprimer votre amour en la protégeant. Il faut la protéger. Elle a peut-être besoin de protection physique. Elle a peut-être besoin d'être protégée par la critique des autres. On critique des fois votre femme. Est-ce que vous la protégez? Est-ce que vous êtes là pour la défendre? Vous direz là, stop. Pas question de dire n'importe quoi. Est-ce que vous donnez ce sentiment qu'elle est protégée? Là, quand la femme a un problème, des difficultés, il s'en va. Débrouille-toi. Alors vous pensez qu'avec ça, elle va avoir des sentiments d'amour, comme ça, qui débordent? Quand vous êtes là pour prendre son parti et dire non, je ne permets pas, par exemple, les enfants, quand ils parlent mal de leur maman, stop! Tu ne parles pas comme ça à ta maman. Alors la maman comprend que vous l'aimez vraiment. Sinon, quand les enfants disent n'importe quoi à la maman, ça, c'est une grave blessure profonde. Elle fait tout ce qu'elle peut. Elle est agressée, mais personne ne la protège. Et c'est toi qui devrais la protéger. Que ce soit à la maison ou en dehors, ou je ne sais qui, partout, tu dois la protéger. Est-ce qu'elle se sent protégée avec toi? Ou alors, ou est-ce qu'elle se sent en danger? C'est le comble. Quand dans notre présence, elle se sent en danger. Alors ça, c'est le comble, vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est le monde à l'envers. Tu aimes ta femme, comment le prouver? En la protégeant. Ne permets pas qu'on dise n'importe quoi à ta femme. Et si elle a fait quelque chose qui n'est pas bien, tu la défends. Et ensuite, en privé, tu discutes. Vous en parlez. Et vous gérez là, c'est un peu là, effectivement, là, mais tu dois la défendre. Tu ne dois pas comme ça la dévaloriser, la déshonorer. Elle a besoin de protection. C'est très important. Très important pour elle. Est-ce que tu le fais? Beaucoup de maris ont démissionné. Quatrième moyen d'exprimer votre amour. Vous exprimez votre amour en l'aidant à assumer ses responsabilités. Là aussi, vous pouvez exprimer votre amour en l'aidant dans ses responsabilités à elle. Travailler à la maison, faire quelque chose, le ménage. Les maris qui faire le ménage, pour eux, c'est tabou. On n'en parle pas, ça c'est pour ma femme. Et pourtant, il voit sa femme fatiguée. Il est dans le fauteuil. Tu aimes ta femme lorsque tu l'aides dans ses responsabilités. Elle a beaucoup de responsabilités. Le travail, la maison, et tout ceci. Bien des fois, elle te demande de faire quelque chose.
Et tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Là encore, elle sentira que tu l'aimes vraiment lorsque tu l'aides dans ses responsabilités à elle. Et non pas dire, ah oui, mais moi, non, ça, c'est son travail à elle. Et moi, c'est autre chose. Non. Tu dois l'aider quand tu vois que ça correspond à un besoin. N'attends pas qu'elle te le demande. Un chef voit le travail qu'il y a à faire. Vous êtes d'accord avec moi? Un vrai chef, c'est ça. Certains, il faut toujours leur demander, allez, fais ceci, fais cela. Avant qu'on te le demande, regarde autour de toi et fais le travail. Combien sont là, ils attendent? Oh, mais elle m'a rien dit. Elle m'a rien dit. Donc, je fais rien. Et tu crois que c'est comme ça que ça marche? Et toi, tu peux pas commencer un travail sans qu'on te le demande? Ça rentre pas. Fais quelque chose, même qu'elle ne te demande. Elle sera surprise. Cinquièmement, vous pouvez exprimer votre amour en vous sacrifiant pour elle. Éphésiens 5, 25, qu'est-ce qu'il est dit? Marie, le carreau Marie est la chaise de la femme comme Christ. Ah oui, verset 25. Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Et c'est livrer lui-même pour elle. Livrer lui-même. On exprime son amour en se sacrifiant pour elle. Un esprit de sacrifice, un esprit de renoncement. Faire quelque chose, c'est ce qui vous coûte. C'est ce qui vous coûte qui a vraiment de la valeur. À ses yeux aussi. Et un jour, j'avais lu cette pensée. Le sacrifice est la respiration de l'amour. Elle m'est toujours restée. Le sacrifice est la respiration de l'amour. Quand on aime vraiment, on se sacrifie, on renonce. On fait des choses qui nous coûtent, mais parce qu'on aime, il n'y a plus rien qui nous arrête. L'amour, on ne calcule pas, n'est-ce pas vrai? Il s'est livré lui-même. Jésus, est-ce qu'il a calculé? Non. Il a mis le comble à son amour pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, loin de lui, il est mort pour nous. Un amour qui se sacrifie. Allez-vous jusqu'à ce point-là? Ce moment-là que vous prouvez que vous avez mis en votre femme, quand il y a un élément de sacrifice, quand ça vous coûte quelque chose. Très important. Six, on en est où? Six, vous pouvez exprimer votre amour en lui permettant de vous aider. En lui permettant de vous aider. On l'a déjà vu tout à l'heure, mais c'est un point important. Que de maris sont complètement fermés à l'égard de leur femme. Elle sent comme si elle vivait avec un étranger, parce qu'il ne se soucie. Combien de maris sont comme un étranger pour leur épouse? Et alors, ils ne demandent rien, et ils sont là, à tous les deux, comme deux étrangers dans le couple. N'est-ce pas tragique, ça aussi? Il faut savoir demander l'aide. Lui permettre, justement, de vous aider. Et plus un mari s'ouvre à sa femme, plus elle lui fera comprendre, il lui fera comprendre qu'il se soucie d'elle et qu'il l'aime. Plus un mari s'ouvre à sa femme, il lui fait comprendre qu'il se soucie et qu'il l'aime. C'est ça, aimer votre femme d'un amour qui permet à la femme de vous aider. Septièmement, vous pouvez exprimer votre amour en refusant de la comparer défavorablement avec d'autres femmes. Là encore, lui et le mari comparent leur femme à d'autres. Ah, si tu étais comme elle! Ah, si tu étais comme elle! Et alors la femme se sent complètement dévalorisée. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et moi, je suis quoi? Les autres sont toujours belles, sont toujours magnifiques, mais elle, à la maison, elle n'est pas grand-chose.
Et vous la comparez, combien de maris comparent leurs femmes avec d'autres femmes?
N'est-ce pas une tragédie? Tu dois faire sentir à ta femme que c'est la meilleure, que c'est la plus belle, que c'est, elle est unique. Tu dois le dire, tu dois le faire sentir. Mais il y en a, c'est exactement le contraire. Huitièmement, comment exprimer son amour? Faire montrer à votre épouse que, à part votre relation avec Jésus-Christ, elle a la première place dans votre vie. À part votre relation avec le Seigneur, elle a, elle, la première place dans votre vie. Ça, c'est exprimer son amour à sa femme. C'est comme cela. Vous arrivez à l'exprimer. Elle a besoin de savoir qu'elle passe avant vos affaires, vos enfants, vos parents, votre maison, vos hobbies. Si elle sait cela, elle se sentira en sécurité. Amen. Il faut absolument lui montrer que, et à part le Seigneur, elle est la première dans votre vie. Je ne veux rien d'autre, tu es la meilleure, tu es la première. C'est toi qui l'as, qui passe avant tout. Telle attitude, mais ça révolutionne un couple, c'est d'accord avec moi. Elle va plus vous lâcher. C'est fini, elle m'a dit un mari comme ça, j'en aurai jamais deux. Et voyez, et pourtant il n'en faut pas beaucoup pour sa chambre. Mais il faut être sincère. Et c'est merveilleux. C'est comme cela que vous arrivez à toucher au plus profond de son cœur. Neuvièmement, vous pouvez exprimer votre amour en lui manifestant beaucoup de tendresse, de respect et de courtoisie. C'est là quelque chose aussi que beaucoup de maris ont la peine à manifester. Ils sont durs, ils sont presque cruels certains, ou indifférents. La femme a besoin de cette manifestation de tendresse, de respect et de courtoisie. Ne plaisantez pas son sujet et ne lui faites pas des remarques blessantes devant les autres. Ne lui faites pas des remarques blessantes devant les autres. Il doit y avoir cette manifestation de tendresse. Si elle a fait une erreur, parlez-en en privé. Parlez avec elle avec douceur et d'une manière respectueuse. Ce sont des choses toutes simples, mais bien souvent, ce sont des choses négligées. On parle avec respect aux autres dames, mais avec notre propre femme, on ne le fait pas. C'est là la tragédie, mais c'est avec elle que ça doit commencer. Si vous devez parler avec tendresse, avec affection, avec respect, mais c'est d'abord avec votre femme. Et dixièmement, vous pouvez exprimer votre amour en lui manifestant beaucoup de reconnaissance et en lui prodiguant beaucoup de louanges. Proverbe 31:28. Votre épouse a besoin que de votre part il y ait cet esprit de reconnaissance, que vous sachiez retenir, mettre en évidence et approuver ce qu'elle a fait de bien. Soyez toujours attentif lorsqu'elle cherche à vous plaire. Soyez attentif. Ne ridiculisez jamais les petites choses qu'elle fait pour vous. Exprimez votre appréciation et votre respect pour ses idées, ses questions, ses prières, son caractère, son opinion, ainsi que son affection. Soyez reconnaissant pour ses remarques et pour tout ce qu'elle fait pour vous satisfaire. Les hommes oublient trop souvent d'être reconnaissants et de louer ainsi leur épouse. Combien de femmes n'expriment jamais leur reconnaissance et dire, femme, c'est formidable ce que tu as fait là. J'apprécie ton geste. C'est bien. Vraiment, je suis content. Mais il n'y a rien de tel pour réjouir le cœur de votre femme. Tandis que certains, c'est uniquement des remarques blessantes, dures, des murmures, enfin n'importe quoi. commence à être reconnaissant. Elle fait quelque chose pour toi, remarque-le. Les maris ne remarquent rien du tout. Leurs femmes feront beaucoup de choses. Tu vois pas ce que je t'ai fait? Tu devrais être le premier à voir. Chérie, là, il y a quelque chose de changé. Et vous le voyez que c'était pour vous faire plaisir en plus. Mais vous rien, moi plus. Et du tout. Mais il n'y a rien de tel pour l'attrister. Et la bloquer même dans son désir de vous aider. Mais si vous remarquez la moindre petite chose, tu l'as vu. Merci. 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 Mes amis, c'est ainsi que le ciel sera sur la terre. Ce sont des petites choses. Et louez votre femme aussi. Louez-la, encouragez-la. Si vous ne le faites pas, qui va le faire? Qui va le faire? C'est votre responsabilité, c'est la responsabilité du mari. Faites-le. Louez-le. Louez-la. Reconnaissez ses talents. Combien de maris sont jaloux des talents de leur femme? Rendez-vous. Et à cause de cela, ils ne disent jamais une bonne parole d'encouragement. Parce qu'ils sont jaloux. Ils voudraient avoir ce talent. Mais si elle a ce talent, c'est comme si toi tu l'avais. C'est comme si c'était toi. Dieu l'a donné pour toi aussi. Si elle est honorée, si elle est bénie, c'est toi qui es honoré, c'est toi qui es béni aussi. Sois reconnaissant. Si elle a des talents que tu n'as pas. Jusqu'à présent, tu as gardé le silence parce que tu étais un peu jaloux. Remarque maintenant ces choses. Dis-lui, chérie. Là, tu as une belle qualité. J'apprécie cette qualité. Ce que vous faites, ce que nous faisons, je le sais, mes amis, on est tous les mêmes. On a tendance à négliger tout cela. Et à dire, c'est rien. Non ! La vie dans le couple est faite de petites choses. Et c'est dans ces petites choses qu'il faut être fidèle. Relever, remarquer, ouvrez les yeux. Ouvrons les yeux. Elle fait beaucoup de choses par amour pour vous. Remarquez-le, remerciez-la. Si elle a un talent, si elle a quelque chose que vous n'avez pas, remerciez-la. Dites, chérie, c'est merveilleux ce que tu as. Vraiment, je suis content. Ça me fait du bien. Et elle, justement, elle voit que ce qu'elle a, eh bien, apporte une bénédiction dans le couple. Et ça ne peut que l'encourager. Mais ouvre les yeux, ouvrons les yeux. Observe. Notre épouse a. Ne soyons plus de ceux qui planent complètement et qui n'accomplissent pas leur tâche. C'est votre devoir de le faire. Vous êtes d'accord avec moi, c'est pas à notre homme de commencer à louer votre femme. Est-ce que vous seriez content? Tu te calmes un petit peu, toi. C'est pas un autre qui doit louer ta femme. C'est toi qui dois le faire. Mais si tu ne le fais pas, c'est un autre qui va commencer à la louer. Et puis après, vous savez la suite, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors n'attends pas qu'un autre commence à louer ta femme, parce qu'elle voit certaines qualités en elle. C'était à toi de le faire. Fais-le. Rattrape-toi. Rattrape le temps perdu. Ne sois pas timide. Oh, maître, oh, ça se fait pas. Moi, j'ai pas l'habitude. Change d'habitude. Change. Fais-le. Ce soir. Tout à l'heure. Fais-le. Quelque chose qui était au fond de toi-même, que tu apprécies dans ta femme et que tu n'as jamais dit. Dis-le. Dis-le. La tombée des nues. Sois prêt à la rattraper. Mais la tombée des nues. Et c'est le début de quelque chose de profond. Et d'un renouvellement. Tu attends. Tu es stationnaire. Il y a un statu quo dans le couple. Les choses peuvent changer. Si tu changes, n'attends pas qu'elle change. Toi, commence à changer. Amen. Ne dis pas, oui, vous avez bien parlé. J'espère que ma femme, elle aura bien entendu ce qui se passe à côté, là. Hein? Et quand elle aura bien obéi, moi, je ferai ma part. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est exactement le contraire. Fais ce que tu dois faire. Elle doit faire ce qu'elle a à faire. Et fais ta part. N'attends rien d'autre. Fais-le. Va de l'avant. Et tu verras que des choses merveilleuses sont encore devant toi. nom du Seigneur soit béni. Je crois que c'est midi. Cet après-midi, nous allons être encore ensemble. Et je voudrais, dire quelques mots sur le véritable sens de l'amour. Parce que dans le mariage, on parle beaucoup d'amour, n'est-ce pas vrai? Mais beaucoup ignorent ce que le mot amour veut dire. Et il est important que vous le sachiez, que je le sache. Et ensuite, nous allons parler du dialogue dans le couple. La majorité des problèmes dans un couple provient d'un manque de dialogue, ou d'un mauvais dialogue, ou de pas de dialogue du tout. Alors j'ai noté quelques points ici pour vous montrer les mauvais dialogues. J'ai noté ici cette parole ou expression à ne jamais utiliser. Ils sont là. Vous les voulez maintenant, je crois. Sept. Ensuite, sept principes pour rétablir le dialogue. Et là, le but, sept objectifs dans le but du dialogue. Sept objectifs. Pourquoi on doit dialoguer, sept fois. Vous avez encore de quoi noter. Hein. Alors, on verra ça tout à l'heure. Je crois que nous allons nous courber dans la prière un petit moment et demander au Seigneur de parler à nos cœurs et de faire de nous des maris qui sont de véritables chefs selon la parole et des maris qui aiment leur épouse comme la Bible demande. Personne ici ne peut dire qu'il n'a rien à changer. Moi le premier, je sais que j'ai des lacunes aussi, certaines timidités, certaines négligences aussi, et ce n'est pas bien. On en souffre, la femme en souffre, et c'est comme ça que on n'avance pas. Si Dieu vous a parlé, obéissons, obéissez. C'est l'obéissance qui est importante maintenant. Et dire, Seigneur, je veux maintenant changer dans tel ou tel domaine. Il y a tel point précis, je veux changer. Je veux obéir. Je ne serai plus le même. Seigneur, je veux obéir. Merci de m'aider. Et le Seigneur donne toujours la force d'obéir à ceux qui veulent. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ta parole qui est la vérité. Merci de savoir que tu es là dans ton amour à nous exhorter, à nous encourager, à nous parler, à nous sonder, afin que nous devenions les maris qu'il faut, les hommes qu'il faut, Seigneur, afin de te glorifier. Puissions toujours mieux aimer notre épouse, comme tu nous le demandes, celle que tu nous as donnée, celle qui est précieuse à nos cœurs. Bien souvent, nous la négligeons, bien souvent, Seigneur, nous la méprisons même parfois. Quelle tragédie! Pardonne-nous, purifie-nous, Seigneur, lave-nous encore de tout mauvais comportement, de toute attitude qui a blessé, qui aurait blessé notre épouse. Purifie-nous, purifie-moi, Seigneur. Aide-nous à être plus veillants, vigilants, et à faire ce que tu attends de nous, Seigneur, sans attendre, je ne sais quoi, que l'autre agisse, mais que nous puissions agir toujours les premiers. Merci, Seigneur. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire et pour le bien de nos foyers, de notre vie de couple. Merci, Seigneur. À toi la louange et la reconnaissance de nous.